Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission Invité du jeudi. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Lost qui va nous parler de son dernier roman, Piège en eau dormante, qui est la suite de Médaille en revers. Il nous en dira quelques mots tout à l'heure de ce premier roman. Et là, c'est le deuxième qui vient à la suite du premier. L'édition, c'est La Clé du chemin. On retrouve Bernard dans quelques instants.
Ay, mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo, Lola, vas a acabar.
Ave María, Lola, conmigo vas a acabar.
Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das. Cuando te miro...
Voilà, donc, comme je vous le disais, notre invité du jeudi, c'est Bernard Lost, qu'on salue. Salut Bernard.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous les auditeurs de Radio Craponne.
Alors, on va parler de ce roman, peut-être revenir un petit peu sur l'autre, parce que de Médaille en revers, donc oui, c'était l'histoire d'un pharmacien qui voulait tout régenter, on peut dire ça en un mot.
Voilà, c'était un notable Yssingelé, beaucoup de responsabilités dans la commune, plutôt bien assis au plan financier, un personnage en vue et qui a une fille unique. Et il ne faut surtout pas que cette fille unique risque de dénaturer la lignée. Donc il a prévu pour elle qu'elle serait à la fois médecin et à la fois championne de natation. Donc ça fait un joli petit programme. Et de plus, il a estimé aussi qu'elle n'allait pas frayer avec n'importe qui et qu'il... qu'il fallait qu'elle s'en tienne à des relations avec des gens de son milieu. Et le malheur, c'est que ses deux meilleures copines ne sont autres que les deux filles de son jardinier, enfin du couple qui est au service des Gréou, puisqu'il s'appelle Gréou. Donc ça fait un petit peu tâche, et ça va faire encore plus tâche quand elle va se dégoter un petit copain qui est le fils d'un réparateur de cycle, qui en soi est un métier tout à fait honorable, mais qu'il accuse, sans trop savoir ce qu'il en est, d'être un ivrogne notoire. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas. Mais enfin, il faut charger un petit peu l'individu pour bien montrer que sa fille ne peut pas se permettre ce grand écart-là.
Ok, donc là, la suite, c'est Piège en eau dormante. Alors, donc on a compris qu'il y avait des tensions entre le père et la fille. Et puis, bon, elle va retrouver une certaine sérénité. Hein.
Oui, parce que dès la fin du tome 1, on se rend compte qu'on est sur le chemin de la réconciliation avec le père qui a bien compris qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait de sa fille. Et surtout... qui a vécu un événement dramatique dans lequel il a failli laisser sa peau au fond des eaux du barrage de la Valette. Et un certain nombre de circonstances de cette noyade avortée, Dieu merci, font que ça lui a remis un peu les pendules à l'heure et que ce à quoi il attachait beaucoup de valeur, il se rend compte que ce n'est pas forcément ce qui en a le plus.
Alors, tu nous emmènes toujours un peu dans la Haute-Loire, puisque dans l'Yssingelais, puisque ça a commencé là. Tu nous emmènes dans la Lozère, Marvejols, Langogne, Chaponneau dans le Rhône, et puis à Saint-Blaise-du-Buis et sur les hauts plateaux du Vercors. Tu l'as fait promener quand même, ta Mathilde.
Voilà. Alors, l'an passé déjà, on avait eu une double histoire, l'histoire yssingelaise et puis l'histoire lozérienne. Puisque un des personnages avait rencontré une fille de Lozère et qu'il l'avait suivie d'ailleurs là-bas. Donc on avait eu l'occasion de se replier un petit peu sur Marvejols. On y revient puisqu'on est dans la suite. Mais l'intrigue va s'élargir, déborder sur un tout autre thème. Le premier thème, le thème du premier plutôt roman, du premier tome, c'était les difficultés relationnelles entre un père trop autoritaire et sa fille qui voulait son indépendance. Et là, on va s'orienter vers un thème que je ne dévoilerai pas ici parce que ce serait dommage, mais un thème de société très actuel qui est assez méconnu, enfin, du moins que je ne connaissais pas tellement. J'ai dû chercher beaucoup, j'ai lu beaucoup de témoignages pour écrire ce tome 2 parce que Mathilde va se trouver, alors que tout allait bien, elle va vivre un gros deuil familial et elle va être désarçonnée et elle va se laisser embarquer dans une histoire pas très claire, elle va disparaître. Et donc ceux qu'on a déjà rencontrés dans le tome 1, sa copine Alexandra, son père aussi, maintenant vont essayer de savoir ce qu'elle a pu devenir. Mais il n'y a pas beaucoup d'indices. Et même si on a fait appel à la gendarmerie du côté de Brigné, là-bas, parce qu'elle habite à Chaponneau, eh bien, on n'a aucun indice pour savoir où elle a pu disparaître. Et là, je me garderai bien de dire aujourd'hui sur Radio Craponne où elle a disparu. Si vous, amis auditeurs de Radio Craponne, vous avez envie de le savoir, vous voyez ce qu'il vous reste à faire.
Faudra lire le livre. Bon, alors c'est l'intrigue. C'est sûr que le lecteur va partir, va imaginer hein, ce qu'elle a pu devenir. Parce que, mais bon, je pense qu'il faudra aller jusqu'à la fin du livre hein, pour savoir.
Ah ben, il faudra, oui, aller, au bon... ouais,
à quelques bon, pages de la fin.
Oui, à quelques chapitres de la fin. Ça va devenir assez intense, d'ailleurs, parce que sa disparition... elle n'a pas fait comme disait Viron qu'elle, de son plein gré elle a disparu à l'insu de son plein gré comme il avait dit donc ceux qui l'ont fait disparaître n'ont pas envie de la laisser réapparaître.
D'accord, oui, donc là il y a quand même des gens qui l'ont fait disparaître et c'est ceci que il va falloir que
aller les dénicher, voilà,
Alexandra puisse la retrouver. Alors ils n'ont pas d'indice du tout, mais je pense quand même qu'ils vont essayer de voir un peu les... Bon, Alexandra, on sait qu'elle est très proche, mais il y a peut-être d'autres gens qui peuvent savoir quelque chose quand même.
Alors, Alexandra est à la fois très proche, donc elle peut analyser ce qui a pu se passer dans la tête de son amie. Et d'autre part, elle écrit des romans. Alors, je ne dirais pas que les gens qui écrivent des romans ont plus d'imagination que les autres, mais enfin, ils en ont un peu. Et donc, elle imagine des scénarios et petit à petit, au gré de ces scénarios, et puis qu'elle partage avec une fois une autre écrivaine dans un salon du livre à Ruinant-Margeride, va s'ouvrir une piste à laquelle elle n'avait pas pensé et qui lui paraît peut-être crédible. Et donc... elle va avec sa petite sœur qui est à Saint-Blaise-du-Buis, d'où la mention de Saint-Blaise-du-Buis, qui est dans l'Isère. Elle va commencer à se lancer sur cette piste-là. Et puis, elle va avoir la chance aussi de bénéficier d'une grande bienveillance de la part du major de la gendarmerie de Brigné, qui la trouve assez mignonne, Alexandra, et qui donc a envie de lui faire plaisir et qui va de son côté essayer de faire l'impossible pour et donc ça va être le partenariat de ces officiels de la recherche, les gendarmes, et des deux petites planchons, donc Alexandra et sa sœur Micheline, qui vont aussi fureter de leur côté, et petit à petit on s'approchera du dénouement.
Alors oui, peut-être parce qu'Alexandra, non, Mathilde disparaît, mais elle disparaît parce qu'elle est partie faire quelque chose,
Elle disparaît parce qu'un jour, alors que ses parents souhaiteraient bien qu'elle vienne passer le week-end à Issaint-Jean, elle habite donc à Chaponneau dans le Rhône, c'est le week-end de Pâques, donc avec le lundi de Pâques, un pont. Ses parents se disent tiens, ce serait bien le moment qu'elle vienne se ressourcer un peu chez nous, d'autant qu'elle vient de vivre une période très très douloureuse, et elle leur dit non, je pars avec une copine dans les Alpes. Seulement la copine, on ne sait pas qui c'est, et est-ce qu'elle est partie dans les Alpes ou à Perpète ou à Gadougou, on n'en sait rien. D'accord, et oui. Donc les raisons pour lesquelles elle disparaît, on ne sait pas trop. Tout juste, les deux copines, les deux petites blondinettes de chez Planchon et Alexandra surtout, avaient pu noter un petit peu un changement dans son comportement. Elle l'a trouvé un peu, comment j'ai dit ça, mystico-gélatineuse, un peu évaporée. Mais sans du tout savoir ce qui pouvait en être la cause, ni où ça allait l'amener.
Voilà, aujourd'hui on parle du livre de Bernard Loss, le dernier livre, Piège en eau dormante, qui est la suite des médailles en revers. Alors vous comprendrez que tout tourne autour de Mathilde, hein, qui a disparu, pas trop de pistes, même si Alexandra peut-être a une petite idée. Hein, alors, tu nous as parlé des Alpes. Alors, est-ce qu'aussi elle sait des choses peut-être que les autres ne savent pas? Alexandra, elle peut se remémorer un jour que Mathilde lui a dit quelque chose, peut-être, on ne sait pas.
Elle a, comment dire, elle a tilté un petit peu une fois où elle était de passage à Chaponneau, où elle s'est arrêtée. Elle a rencontré quelqu'un qui était chez Mathilde, qui l'a intrigué beaucoup. Elle se demande si ça peut avoir un lien avec cette personne. Mais là, on ne le saura pas cet après-midi, je crains. Alors, peut-être qu'il est intéressant de dire un mot du titre, « Piège à nos dormantes ». Bon, un piège, on sait ce que c'est. Et on sait aussi, on connaît bien l'adage, il n'y a pire eau que l'eau qui dort. Et c'est souvent les gens dont on ne se méfie pas, on n'a pas du tout envie de se méfier, qui peuvent vous embarquer dans des sentiers un petit peu douteux. Et il faut se rappeler aussi que Mathilde, dans le tome 1, avait été prise en flagrant délit de cambriolage dans la pharmacie de son propre père à la recherche de stupéfiants. Donc c'était pas non plus la chef des enfants de cœur, hein. Du coup, on se dit, elle n'en est peut-être pas une, excusez-moi, auditeur, à une connerie près. Et il peut y avoir une piste de ce côté-là aussi. Mais
oui, ben là, c'est le point d'interrogation. Alors, la couverture, là, c'est...
Alors, la couverture, c'est comme toujours un peu, j'aime bien faire ça, c'est un montage. Donc, j'ai mis un paysage alpestre qui n'est pas vraiment le paysage. Le dos de la couverture a un petit fond de Vercors qui est plus lié à l'histoire finalement, qui serait plus proche du dénouement de l'histoire. Mais enfin, je voulais un cadre montagneux. C'était une photo qui avait été prise par une de mes filles quelque part en Savoie, où elle avait résidé pendant 6 mois, là. D'accord. Et du coup, ça allait pas mal. Et puis, j'ai mis à contribution la famille aussi pour les personnages de couverture, mais que j'ai laissé un peu dans le flou.
Anonyme.
Voilà, anonyme. Parce que j'avais pas envie de leur faire jouer de face un rôle au moins qui était pas très très glorieux.
Oui, alors pour revenir à Mathilde, tu parles qu'elle avait cambriolé la pharmacie.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une relation? Parce que cambrioler une pharmacie, est-ce que derrière on peut avoir une histoire de drogue?
Eh bien, dans le tome 1, elle a flirté un petit peu avec cet univers-là. Et comme elle a flirté avec cet univers-là, quand on a mis le doigt dans l'engrenage, on peut toujours penser qu'effectivement, sa disparition est liée à ça. Mais malgré tout ton talent pour tourner autour du pot et essayer de me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire... Non, mais j'aime bien te taquiner parce que il m'est difficile d'en dire plus sans mettre trop les lecteurs éventuels sur la piste de cette Mathilde. Il faut les laisser eux-mêmes se tracer les chemins de leur propre énigme et puis ils verront bien s'ils ont mis dans le mille ou pas.
Alors, tout au long du livre, il y a quand même des fausses pistes, quand même. Donc le lecteur peut se laisser embarquer sur une fausse piste?
Oui, il va se laisser embarquer sur une fausse piste, comme s'ils sont laissés embarquer pendant un certain nombre de semaines, les parents, Alexandra, sa sœur, et notamment une piste qui prend une résonance toute particulière, mais ça aussi je n'irai pas trop loin parce que j'entrerai trop dans ce tome 2, qui est celle de l'accident. parce qu'on a toujours un peu l'impression que l'accident s'est fait pour les autres. Et puis là, cette disparition les inquiète un peu beaucoup. Partir dans les Alpes, les Alpes, c'est pas tout plat, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit une fois ou l'autre. Et bon, si elle est au fond de quelques ravins avec la copine, puisqu'elle était soi-disant partie avec une copine, et il se peut qu'elle soit en train de virer de l'état vivant à l'état plus vivant du tout qu'au fond d'un ravin, mais on n'en sait rien.
Oui, parce que c'est vrai, on parle des Alpes, ils ont pu se balader en montagne, on sait que la montagne,
voilà, la montagne c'est très traître, hein.
Oui, on sait,
ouais.
Hein, puisqu'on sait qu'il y a des gens d'ici il y a quelques années là, qui, une famille dont la mère était tombée dans une crevasse et ses enfants et son mari étaient à côté, n'ont rien pu faire, hein, donc oui. La montagne, c'est très très dangereux. Donc piège en eau dormante, bon, il y a piège, il y a eau dormante,
voilà.
c'est un peu oui, pour dire que c'est un peu compliqué,
il y a un peu de oui, il y a un peu de mystère, mais c'est quand même la disparition de Mathilde c'est une fiction ici dans mon bouquin, mais ça s'appuie sur des faits réels de disparition totalement inexpliquées et des témoignages de gens qui en sont revenus. Et quelquefois, c'est assez hard, mais j'ai écouté beaucoup, beaucoup de témoignages, notamment de témoignages trouvés sur... sur des émissions de télé, je ne saurais pas le nom de l'émission, mais ouais. Une émission de télé de France 2 l'après-midi, il me semble, des gens qui racontent leur... je ne sais plus exactement ce que c'est. Ou sur Internet, aussi des bouquins que j'ai pu lire. Y a un univers qui n'est pas forcément très connu, mais qui existe bien dans notre société. Hein. Et on tombe là-dedans... la bouche en cœur, parce qu'on, justement, parce que c'est un piège à l'eau dormante et que l'eau dormante, c'est quand même très, très, très dangereux.
Alors, bon, d'après ce que tu dis, enfin, moi, je connais un cas concret, hein, parce que j'ai un copain, son fils a disparu, il sait qu'il est vivant, mais il ne l'a jamais revu. Mais il sait qu'il est vivant parce qu'il a des indices. Voilà, mais il ne l'a jamais revu. Moi, il me l'avait dit, il n'est jamais revenu, il n'est jamais. Il a disparu et. Lorsque tu dis là, le truc d'avant, un ouais. petit peu... Là, ça...
là on ne fera pas souffrir le lecteur pendant des années. Je ne sais pas l'exemple dont tu parles, si ça a dû, s'il y a des années.
De... Oh, oui, c'est vieux, c'est très, très...
Oui, là, en l'espace de 6 mois, on va quand même se libérer de cette hantise. Mais il n'empêche que ça va être... il va y avoir un certain suspense pour savoir... Ou peut avoir disparu maintenant.
Alors là, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais j'ai cru comprendre quand tu disais que dans notre société, ça arrive, qu'il peut y avoir une histoire de secte.
Ah, c'est une idée qui... ah, mais toi, tu aurais pu écrire le roman. Ah, après, ça aurait été sans doute différent, mais enfin...
Écrire,
non, tu ne sais pas écrire. Ah oui, mais ça... tiens, je n'y avais pas pensé à ça, mais ça pourrait être une piste.
Voilà. Donc, voilà, on va... Non, mais puis tu parles de choses... C'est vrai qu'on... Alors moi, je connais en plus bien l'histoire, hein, parce que ça s'est passé dans la famille de ma belle-sœur, où la femme de Vuarnet, hein, pour parler de skieur, eh ben, qui était au truc du soleil, là,
ah,
et
oui.
qui sont la fille...
Temple solaire,
femme,
hein, oui.
Elle, et ont été... sont suicidés. Enfin,
suicide de groupe, ouais.
Parce qu'ils étaient rentrés dans une... Alors, comme quoi, c'est vrai, ce que tu disais, il y a des choses qui existent, hein, dans notre... Puis des gens qui disparaissent. Bah, du côté de Mince aussi, je me rappelle quand mon père était prof à l'IFP, il y a, je crois qu'il tenait le bar tabac ou je ne sais pas ce qu'il tenait, le gars. Il est parti un matin, mais c'est le cas de le dire, chercher ses cigarettes. Il n'est jamais revenu.
Ah, oui.
On n'a jamais su ce qu'il était devenu. Il n'a jamais touché sa carte bancaire, son compte bancaire. Donc il y a des choses comme ça, des gens qui disparaissent.
Et puis là, on se heurte aussi au plan législatif, au plan juridique. Un autre problème, c'est qu'un adulte a le droit de disparaître. Ce n'est pas un délit de disparaître. Et donc, pour obliger les forces de l'ordre, la gendarmerie, par exemple, ou la police à intervenir, c'est très, très difficile. Alors, il y avait jusqu'à ce que, comment il s'appelait là-bas, qui est allé candidat à la mairie de Barcelone, qui était ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui a abrogé cette loi ou cette... je ne sais pas si c'était une loi, de recherche dans l'intérêt des familles. Donc, dans ce cadre-là, la gendarmerie pouvait mettre quelques moyens pour essayer d'aider les familles à retrouver la piste d'un disparu. Mais si la personne est majeure, on considère que c'est son libre choix de se casser, quoi. Ouais. Et on n'est pas obligé d'intervenir. Et c'est d'autant plus intéressant pour Alexandra, qu'elle est un peu tapée dans l'œil du major là-bas, parce que lui, bon, officiellement, il ne va pas mettre toutes ses forces dans la bataille, mais on le verra notamment un jour aller faire de, comment on appelle ça, quand ils vont la nuit,
une marche de nuit.
Non, quand on va suivre une filée, voilà, filature. Excusez-moi, lecteur, c'est le soir, hein, et puis c'est lundi de Pentecôte. C'est jeudi de Pentecôte. Oui, c'est vrai.
Alors, c'est la semaine.
C'est la semaine. Voilà, on est un petit peu perdu, mais c'est ça. Donc, ce gendarme va notamment se lancer dans une filature hors cadre réglementaire, avec sa voiture personnelle, pour d'ailleurs détourner un petit peu l'attention. Mais il est vrai que le cadre juridique, quelquefois, freine un peu. Alors, les familles, ça met les familles en colère, quelquefois, parce qu'elles voudraient qu'on mette un peu plus de moyens pour retrouver. Il faut apporter la preuve que la personne disparue est en danger. Et quand on ne sait pas où elle est,
Vas-y, se coucher.
Et là, il faut bien reconnaître qu'Alexandra va le pousser un peu dans ses derniers tranchements, le gendarme, en argumentant sur le fait qu'avec telle ou telle hypothèse, elle est bien en danger et que là, il n'a plus le choix des moyens. Ouais. Et alors, il y a des petites passes d'armes, mais très sympathiques, puisqu'il il lui demande un peu si elle veut lui apprendre son métier, parce que forcément, elle le bouscule quand même un peu.
D'accord.
Mais il aime bien être bousculé.
Ouais. Alors, Piège en eau dormante, donc c'est le livre dont on parle avec Bernard Lost aujourd'hui, la suite des médailles à un revers. Donc, on a expliqué, on ne va pas aller bien plus loin, hein, parce qu'après, il ne faut pas bien sûr révéler comment ça va finir, si on va retrouver Mathilde, si on ne va pas la retrouver, comment on va la retrouver,
dans quel état. Oui.
Bon, donc, ça sera la fin du livre, hein, il faudra arriver à la fin du livre. Pour voir l'intrigue, si Alexandra et son chef de gendarmerie, son commandant, son major, vont réussir à découvrir ce mystère, quoi. Parce que c'est un mystère, quand même.
Bien sûr.
Elle dit
bien
qu'elle part dans les Alpes, on ne la revoit plus. Donc, on va voir. Dans le livre, on saura la fin.
Et alors, si mes souvenirs sont bons, parce qu'on jongle beaucoup avec les dates quand on fait un... elle disparaît donc le week-end du Pâques. Lundi de Pâques.
Ouais.
Et on aura de ces nouvelles au tout début août.
D'accord.
Donc ça fait quand même quelques mois d'angoisse. Ouais, c'est vrai que le père Edmond, qui d'ailleurs est à la retraite, s'est retiré aussi des affaires publiques et qui a tendance à être rentré un peu dans le rang, il a pris un petit coup de vieux quand même, hein, parce que déjà son accident au barrage de la Valette... l'avait bien secoué, mais là, la disparition de sa fille et d'autres choses encore que j'ai pas évoquées et que le lecteur découvrira, son piédestal a été un petit peu raboté à la base. Hein.
D'accord.
Ouais.
Donc, Piège en eau dormante, dernier roman de Bernard Lost. On va voir, hein, il faudra le livre disponible. Hein, maintenant,
Livre est disponible après avoir, comme les copains, été confinés, puisque ce livre est paru selon ma petite tradition personnelle le jour du printemps.
Juste après le confinement. Oui,
au début, voilà.
Il y a eu un livre évasion.
Voilà, bien sûr, il n'y a pas eu livre évasion, il n'y a eu aucun salon, il n'y a aucune... On ne va pas en dédicace. D'ailleurs, à titre personnel, mais pour d'autres raisons, j'avais signalé à mes lecteurs que j'irai beaucoup moins en dédicace parce que j'ai d'autres charges, notamment familiales, à assumer. Mais là, on a été obligé de. J'ai eu un certain nombre de lecteurs quand même, parce que il s'est trouvé que j'avais informé mes lecteurs par un mailing que je fais chaque année, juste avant le confinement. Donc ouais. Le livre était sorti, mais après il y avait le problème de distribution parce que la poste fonctionnait moins bien, enfin moins régulièrement, disons. Et Mondial Relais, qui nous distribue aussi des livres, était complètement à l'arrêt. Ouais. De nos, les librairies, pareil. Donc, le livre est resté confiné dans les cartons. Et puis maintenant, il refait surface. Et donc, on a fait la distribution dans nos points de vente habituels. On peut le trouver dans n'importe quelle librairie de France et de Navarre, puisque les libraires nous le commandent. On peut le commander en direct, soit par courrier à la Clé du Chemin, soit sur notre site internet, qui est www.laclédechemin.fr. Voilà, on a tout ce qu'il faut.
Très bien. Donc, on a bien compris. Piège en eau dormante. Les éditions La Clé du Chemin, si on vient d'en parler. Le dernier roman de Bernard Lost. Alors Bernard, c'est ma question traditionnelle, c'est à chaque fois que je reçois un écrivain, il y en a toujours un sous le coude, est-ce que t'en as un, toi?
Alors là, j'aimerais bien en avoir un, mais, non, mais je forcément. Peux pas dire que si j'en avais un, une idée qui me plaisait bien parce qu'elle est bien dans le vent de l'époque aussi, mais je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas la refiler à un autre quand même. C'est vrai, on est dans l'espionnage industriel par le biais de Radio Carbone, quoi, ou du moins l'espionnage éditorial. Donc j'avais une idée et puis finalement je suis en train de me poser la question d'une trilogie. Parce que voilà, parce que là j'ai déjà eu plusieurs lecteurs qui me disent qu'ils aimeraient bien un tome 3, parce que on a la piste d'une saga familiale, on a la piste des enfants qui sont nés entre temps et qui eux aussi peuvent vivre quelques aventures dans la foulée. Alors j'ai bien quelques idées, mais je ne peux pas dire honnêtement de quoi je vais pouvoir accoucher au printemps prochain, parce que
non mais c'est une question comme ça, voilà. Hein, parce qu'on sait qu'il y en a qui, tu reçois Albert Duclos, il y en a,
ah oui mais lui il en a toujours plusieurs sous le coude,
déjà qu'il y en a qui est fait. Oui, non, mais oui. Pour ça qu'on pose toujours un petit peu.
Non mais j'aimerais bien effectivement donner un troisième tome, parce que ces personnages sont rentrés un peu dans ma famille là, et aussi un certain nombre de lecteurs qui m'ont fait des retours, puisque certains ont commandé le livre et m'ont fait des retours, aimeraient bien une suite, donc pourquoi pas. Mais on peut pas toujours faire noyer le père et disparaître la fille. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire à la troisième génération?
On va voir.
Oui, on verra.
Voilà, donc Bernard, merci d'avoir été avec nous. Donc Piège en eau dormante, c'est sorti, hein, maintenant vous le trouverez dans toutes les librairies, comme on dit. Vous pouvez le commander, comme on a dit aussi, à la Clé du Chemin. Eh bien écoute, merci d'être avec nous.
Hein, merci beaucoup à toi Jean-Pierre d'être aussi fidèle à m'inviter pour présenter mon livre de l'année.
Nous, c'est, comme je dis, hein, c'est notre rôle, sinon c'est rien. Hein. C'est vrai qu'une radio libre qui ne parle pas des gens du coin... C'est pas grand chose.
Oui, et puis merci aux auditeurs de Radio Craponne, parce que souvent, quand je l'ai plus en dédicace, j'ai dit que j'irai moins, j'irai bien un peu. Ils me disent: ah, on vous a entendu quand même sur Radio Craponne. Donc, c'est un bon support. C'est très très bien, merci beaucoup.
Alors, on va finir, mais là, ça va rester dans le mystère, parce que j'ai choisi pour terminer la chanson de Jacques Brel, Mathilde est revenue, mais c'est un point d'interrogation. Hein. On ne sait pas. Hein. Donc voilà. Allez, merci à toutes et à tous. Cet invité du jeudi, donc aujourd'hui, recevait Bernard Lost. Et on retrouve Jacques Brel. Mathilde est revenue. Jacques Brel, le grand Jacques Brel. Mais attention, hein, on ne sait pas si elle est.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. cœur ne t'emballe pas. Fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas, vous, mes bras, ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer, Mathilde, mère. Apporte-nous du vin, celui des noces et des festins, Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap, Mathilde, mère revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.
Que tú la espalda me das, si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá.
Ave María, Lola.
Voilà, notre invité du jeudi aujourd'hui était Bernard Lost pour son dernier roman Piège en eau dormante, une émission que vous pouvez réécouter le lundi à 22h, le mardi à 12h30 et le mercredi à 19h, et puis bien sûr sur notre site internet, comme on dit maintenant, en podcast, là vous le retrouvez. Dès qu'on l'aura mis, quand vous voulez. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être présents pour ces invités du jeudi. Aujourd'hui, c'était Bernard Lost pour son dernier roman, Piège en eau dormante.